DW. Droits et libertés.
À Gaza et dans les autres territoires palestiniens occupés, les violations massives des droits humains continuent. 2 ans après le lancement de la riposte israélienne à l'attaque du Hamas contre Israël, le bilan est lourd. 1650 morts côté israélien et plus de 62 000 côté palestinien, selon les Nations Unies au 1er septembre 2025. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, dénonce un mépris flagrant du droit international. Il évoque des massacres de civils palestiniens par les forces de défense israéliennes. Pour en parler, nous recevons Samuel Longuet. Il est chercheur au GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, basé à Bruxelles. Sandrine Blanchard au micro. Bonjour et bienvenue tout le monde. Samuel Longuet, bonjour.
Bonjour.
Comment a-t-il été établi que des exactions avaient bel et bien été commises dans la bande de Gaza ?
Pour répondre à votre question, il faut rappeler que le droit international humanitaire, c'est une branche du droit international qui régit la conduite des parties à un conflit armé. Et il y a donc plusieurs violations de ce droit international humanitaire qui sont reprochées à Israël. D'abord, il y a des attaques menées sans discrimination entre les combattants des groupes armés palestiniens et les civils gazaouis. Ensuite, il y a l'imposition d'un siège de la bande de Gaza qui prive la population civile de biens indispensables à sa survie, notamment l'eau, la nourriture et les médicaments. Et puis, il y a des cas de torture, de peines et traitements inhumains et dégradants qui ont été infligés à des détenus palestiniens par les forces de sécurité israéliennes. Toutes ces violations, elles ont été documentées par des organisations non gouvernementales de défense des droits humains, comme Amnesty International ou comme Human Rights Watch. Elles ont aussi été documentées par le Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies et par plusieurs experts indépendants mandatés par les Nations Unies. Et puis, pour ce qui est des privations de denrées indispensables à la survie de la population gazaoui, ce sont des accusations qui ont été jugées suffisamment sérieuses par une chambre préliminaire de la Cour pénale internationale pour qu'elle délivre en novembre 2024 deux mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ex-ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ces actes, ils ont aussi été qualifiés de génocide par plusieurs organisations non gouvernementales de défense des droits humains, par des experts indépendants, y compris d'ailleurs des universitaires israéliens.
Pourquoi les débats autour de la qualification ou non de génocide est-elle si importante ?
Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le droit international pénal, il ne fait pas d'hierarchie entre ces différents crimes. D'ailleurs, un même acte peut recouvrir les trois qualifications qui dépendent du contexte et de l'intention. Alors, pourquoi la qualification de génocide a son importance ? Si certains actes commis par Israël sont aussi qualifiables de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité ? Alors, d'abord, pour décrire précisément ce qui se passe à Gaza, celles et ceux qui utilisent cette qualification le font pour insister sur le fait qu'il y a une intention chez les responsables israéliens de détruire au moins en partie le groupe des Palestiniens. Ensuite, parce que la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, qui est un traité qui date de 1948, ce traité comporte une clause qui prévoit de porter les différends quant à l'application de ce traité devant la Cour internationale de justice, qui est justement l'organe judiciaire des Nations Unies. Et c'est d'ailleurs ce que l'Afrique du Sud a fait en reprochant à Israël, devant la Cour internationale de justice, des violations de ce traité.
Le droit humanitaire international reconnaît 3 grands principes. Celui de la distinction entre civils et combattants, de la proportionnalité de la violence qui est employée dans un conflit et de précaution pour limiter au maximum les pertes, les blessures, les destructions dans le milieu civil. Et les États tiers ont obligation de vérifier que ces 3 principes sont respectés. Est-ce que vous pourriez juste dire un mot de cette obligation ?
Les États tiers ont en fait une obligation de faire respecter le droit international humanitaire dans son ensemble par les parties à un conflit armé. Donc ça concerne les 3 principes que vous venez de citer, qui régissent la conduite des hostilités, mais ça concerne également les règles quant à l'accès à la nourriture et aux soins pour la population civile, ou encore les règles qui interdisent de maltraiter ou torturer des personnes détenues. Pour respecter cette obligation, le minimum que doivent faire les États tiers, c'est de ne pas fournir d'armes à une partie à un conflit armé qui viole le droit international humanitaire. Ce qui, en l'occurrence, est le cas à la fois du Hamas et d'Israël. Il y a d'ailleurs une autre source à l'obligation de ne pas fournir d'armes à Israël. Les États ont aussi une obligation de prévenir le génocide qui est inscrite dans la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette obligation, elle implique de prendre des mesures dès qu'un État a connaissance d'un risque sérieux de génocide. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'attendre qu'un génocide ait été prouvé devant une cour pour que les États tiers aient l'obligation d'agir pour le prévenir. Il suffit en fait qu'ils aient connaissance d'un risque sérieux, ce qui est le cas ici. Et il y a même une troisième source à l'obligation de ne pas fournir d'armes à Israël. La Cour internationale de justice a conclu en juillet 2024 que l'occupation israélienne du territoire palestinien était illicite, parce qu'elle violait deux normes de droit international, l'interdiction de l'acquisition de territoires par la force et le droit des Palestiniens à l'autodétermination. Par conséquent, les États tiers ont l'obligation de n'apporter aucune aide et aucune assistance au maintien de cette occupation et annexion illicite. Ça se traduit évidemment par l'obligation de ne pas fournir d'équipement militaire aux forces occupantes israéliennes.
30% des livraisons d'armes et d'équipements militaires à Israël provenaient d'Allemagne jusqu'il y a peu. Le gouvernement allemand, sous plusieurs chanceliers, reconnaissait le droit d'Israël à se défendre et a même édicté ce droit-là en raison d'État. Début août, le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz a annoncé pourtant la suspension de certaines livraisons d'armes ou d'équipements vers Israël. Qu'est-ce qui explique ce revirement politique allemand ?
La raison évoquée par le chancelier Friedrich Merz pour justifier cette décision, c'est l'intensification de l'action militaire israélienne dans la bande de Gaza début août 2025. C'est une décision qui arrive assez tardivement, en août 2025 donc, alors que dès octobre 2023, et à plus forte raison pendant toute l'année 2024, le gouvernement allemand avait tous les éléments à sa disposition pour savoir que les forces de défense israéliennes commettaient des violations du droit international, et donc qu'il y avait un risque de faciliter ces violations en leur livrant du matériel militaire. On sait par exemple que des lance-missiles portatifs du même type que ceux qui ont été livrés en octobre 2023 à Israël par l'Allemagne, ils ont été utilisés à Gaza, alors que l'Allemagne les avait justifié leur export, justement en disant qu'il y avait peu de chances qu'ils y soient employés par l'armée israélienne. Ce qu'on peut souligner aussi sur cette décision du chancelier Merz, c'est la portée sans doute assez restreinte de cette annonce. Et pour bien comprendre, il faut savoir que lorsqu'une entreprise allemande veut exporter des armes ou du matériel militaire, elle doit d'abord demander une licence pour ça à une autorité de contrôle en Allemagne. Ces licences, elles sont le plus souvent accordées pour plusieurs livraisons, sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et lors d'une conférence de presse, des journalistes ont demandé au gouvernement si la décision annoncée le 8 août concernait uniquement les licences qui seront demandées après cette date, ou si elle concerne aussi toutes les licences d'exportation de matériel militaire vers Israël, qui avaient été accordées avant le 8 août et qui étaient toujours valides. La réponse des porte-paroles du gouvernement n'a pas été très claire sur ce point, ce qui laisse penser en fait que tout le matériel militaire dont l'exportation a été validée avant le 8 août pourra continuer à être envoyé d'Allemagne vers Israël. Et si c'est bien ça, alors le gouvernement allemand ne serait pas le premier à faire ce genre de déclaration. Donc en conclusion, il y a plusieurs pays européens qui continuent à exporter vers Israël du matériel militaire, des armes ou des pièces et composants pour des systèmes d'armes, alors que c'est en contradiction avec leurs obligations internationales.
Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, demande maintenant des sanctions contre les ministres israéliens extrémistes, ainsi qu'une suspension partielle de l'accord d'association qui lie l'Union européenne et Israël. Pourquoi le débat est-il si difficile, en Europe notamment, avec une confusion parfois dans les termes entre l'État d'Israël, le gouvernement israélien, celui de Benjamin Netanyahou et de ses alliés, mais aussi les Juifs? Comment expliquer cela?
D'abord, comme vous le mentionnez, oui, il y a un discours qui est porté par Israël et que répètent certains partis politiques en Europe, qui vise à installer une confusion entre la critique des actions d'Israël et l'antisémitisme. C'est une tentative d'empoisonner le débat public et en plus ça dessert la lutte contre l'antisémitisme. Un autre facteur explicatif, c'est qu'il y a une idée fortement ancrée chez certaines forces politiques européennes selon laquelle Israël est dans une posture défensive au Proche-Orient. C'est une idée qui a été encore renforcée par les massacres commis par le Hamas et d'autres groupes armés palestiniens le 7 octobre 2023. Mais c'est une façon de voir les choses qui oublie qu'Israël maintient une occupation et une annexion illicite du territoire palestinien, également une occupation et annexion illicite de parties du territoire syrien. C'est oublier également que c'est la seule puissance nucléaire de la région qui n'a jamais adhéré au traité de non-prolifération, mais qui s'autorise à mener une guerre contre l'Iran pour y contrôler le risque de prolifération nucléaire. Et puis, on a vu là, encore récemment, en septembre, qu'Israël s'autorise aussi à bombarder le territoire du Qatar, qui fait pourtant des efforts de médiation depuis presque 2 ans pour mettre un terme au conflit à Gaza. Donc Israël, en fait, c'est une puissance agressive, interventionniste, expansionniste et colonisatrice, mais que, en effet, certains discours en Europe continuent à présenter comme si elle était dans une posture purement défensive. Un autre élément encore, c'est qu'Israël est un des principaux alliés des États-Unis. De façon plus générale, sur la question des sanctions contre Israël, les divisions entre Européens, elles sont d'une part géographiques, puisqu'il y a certains pays en Europe, comme l'Irlande ou l'Espagne, qui ont depuis longtemps une posture plutôt pro-palestinienne, et d'autres pays, comme l'Allemagne notamment, qui ont une posture pro-israélienne qui est revendiquée. En Allemagne, le personnel politique le justifie par un devoir particulier qu'aurait l'Allemagne vis-à-vis d'Israël, à cause du génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces divisions, elles sont d'autre part pas seulement géographiques, mais aussi politiques, avec un soutien à Israël qui est en général plus marqué à droite et à l'extrême droite qu'à gauche de l'échiquier politique. Alors tout cela étant, voir que la présidente de la Commission européenne, qui est pourtant issue de la droite allemande, demande certaines sanctions contre Israël, ça montre peut-être que les lignes sont en train de bouger, mais en septembre 2025, on peut considérer que ça arrive quand même bien tard.
Merci à vous, Samuel Longuet.
Au revoir et merci.
Merci à Samuel Longuet, chercheur au GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité basé à Bruxelles. Nous mettrons un lien vers ses publications sur notre site dw.com/français. Et puis vous pouvez, si vous le souhaitez, retrouver Droits et Libertés sur la plateforme de podcast de votre choix. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.